Ça va? Okay. Bonjour, mon nom est Kathleen Madden. Je travaille ici à l'Institut Douglas. Je suis chef du projet Dossier patient électronique. C'est un projet qui a mûri longtemps dans l'institution avant de naître. Ça a commencé il y a environ, il y a un peu plus d'un an. Et puis, j'ai avec moi deux personnes de l'équipe de projet. Hélène Laberge, qui est une clinicienne d'expérience, qui est chef professionnel des ergothérapeutes et qui est aussi chef des archives médicales. Alors, vous comprendrez qu'elle connaît bien le dossier patient, autant son contenu que son contenant. Elle va nous parler du dossier patient d'hier à aujourd'hui et puis même de demain. Par la suite, Monsieur Van Leu, qui est chef du service informatique, qui supporte très bien l'équipe de projet, vous parlera des embûches et des conditions de réussite pour la mise sur pied d'un tel projet. Alors, Hélène, je te laisse la parole.
Je vous le dis, vous voulez que je vous parle en français. Je suis capable de parler en anglais, mais j'ai un fort accent québécois. Alors, je vais vous parler en français. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, sauf que je suis très intéressée à voir le dossier patient électronique voir le jour. Alors, c'est ça le conflit d'intérêt que je dois déclarer. Le dossier patient en 2009, c'est quoi? Pourquoi qu'on a un dossier, patient? La première chose que le dossier patient fait, c'est un outil de communication. Puisqu'on y retrouve la contribution de chaque intervenant impliqué dans les activités de soins du patient, le dossier patient électronique communique, le dossier patient en 2009 communique donc les interventions qui sont faites, les traitements qui sont donnés, les médicaments prescrits, pourquoi ces interventions ont été faites, les résultats de ces interventions et comment le patient a réagi. C'est grâce à ces informations-là qu'on retrouve dans le dossier patient qu'une coordination des soins et une continuité des services est possible. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir moins de redondance. Mais le dossier du patient, ce n'est pas seulement un outil de communication. C'est aussi un témoin neutre en cas de litige. Je ne le souhaite à personne d'avoir un litige concernant un traitement, mais ça arrive à beaucoup trop de monde. Donc, c'est un témoin neutre en cas de litige, puis j'imagine que tous les cliniciens savent cette belle phrase-là. Ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit, si ce n'est pas écrit, c'est comme si ça n'avait pas été fait. Donc, tout ce qui est écrit dans le dossier peut avoir un impact dans la démonstration de la responsabilité professionnelle. Le dossier patient, c'est aussi une fenêtre sur la qualité des services offerts. Le dossier est un instrument privilégié pour apprécier la qualité des services rendus aux patients et par conséquence, la compétence des intervenants, son savoir-faire. Et vous savez que quand on est en question d'avoir une inspection professionnelle, le dossier patient est toujours utilisé. Le dossier patient, c'est aussi une source de données statistiques. Par exemple, quand on fait l'étude de plusieurs dossiers, ça peut permettre de déterminer la fréquence de complications ou des particularités cliniques. Les données peuvent aider à la planification de développement futur de services pour répondre aux besoins de la population ou d'être une aide à la recherche. Et le dossier patient, c'est aussi un document pédagogique. Un document pédagogique, c'est-à-dire un outil précieux pour aider à faire le pont entre la théorie et la pratique pour les étudiants de toute discipline clinique. Et le dossier, quand on laisse les étudiants le lire, permet aussi un développement de la pensée critique. Ça, c'est le dossier en 2009. Là, je vais vous parler de la particularité d'un dossier en santé mentale ou en psychiatrie. Là, je vais vous montrer quelque chose. Je vais laisser mes complices avancer un petit peu. Ce que vous allez voir, c'est un vrai dossier patient. Un dossiers, 12 volumes. C'est pas le pire qu'on a, mais c'est un pas pire beau pareil. Le pire que j'ai vu depuis que je suis le chef des archives, c'est 26 volumes. Celui que vous avez ici n'en a que 12. Oui, oui, ils sont tous numérotés de 1 à 12, parce qu'évidemment, c'est en ordre chronologique. C'est un vrai dossier. Le patient il est venu la première fois à l'hôpital Douglas en 1963, et il est encore suivi à l'hôpital Douglas. Kathleen, veux-tu montrer un des dossiers? Vous voyez comment le dossier fonctionne. En haut, vous voyez les chiffres indiquent que le patient a eu une visite en 2009. Le chiffre orange. Donc, il était commencé à être suivi en 1963 et il est encore suivi à l'hôpital Douglas. Est-ce que ça vous impressionne un petit peu? J'espère que oui. Entre autres, une de mes motivations à travailler sur le dossier patient électronique, un beau dossier comme ça. Mais je dois vous avouer que je ne suis pas tellement fine de faire ce que je fais là. Je ne suis pas tellement fine parce que pendant que le dossier est ici, j'espère que le psychiatre n'en a pas besoin. J'espère que le psychologue n'en a pas besoin. J'espère que la travailleuse sociale n'en a pas besoin parce qu'il n'est pas disponible parce qu'il est ici. Donc, un dossier en psychiatrie. Bon, là, je vais vous dire que le dossier en psychiatrie contient tout ce qu'un dossier ordinaire en médecine physique générale ou d'un milieu hospitalier général contient. Mais on a des particularités. Entre autres, bien ça, c'est pas une grosse surprise, là, si je vous dis qu'une évaluation en psychiatrie est nécessaire d'un dossier en psychiatrie. Ce qui est particulier, c'est que les évaluations psychiatriques, habituellement, c'est à plus qu'une page. Ça a 2-3 pages parce que les psychiatres, ils aiment ça jaser un petit peu puis bien expliquer la problématique psychiatrique. J'imagine que les psychologues sont comme ça aussi, les évaluations psychologiques. Évidemment, qu'est-ce que contient aussi la particularité du dossier en psychiatrie? C'est évidemment une évaluation du risque suicidaire. C'est omniprésent en psychiatrie. On est toujours inquiète que le patient va essayer de faire une tentative suicidaire, au pire, réussir son suicide. Une évaluation du risque de dangerosité. Le patient, il pense seulement dangereux pour lui-même, mais il peut être dangereux aussi pour les autres. Quand ça, ça arrive, il faut penser à une garde préventive ou une garde en établissement. Des fois, on est même obligé, puis ça, c'est toutes des particularités qu'on rencontre en psychiatrie. Donc, des fois, on est obligé, en plus, de penser à une ordonnance de traitement. Évidemment, en plus de ça, on a aussi une évaluation psychosociale. Le statut légal. Dans le statut légal, c'est important en psychiatrie de savoir si le patient il est apte ou inapte, ou même des fois, ici à l'hôpital Douglas, on a des patients qui sont ici en ordonnance de la cour pour être traités. Et évidemment, l'item que moi je préfère de plus, les interventions de groupe. C'est un médium thérapeutique qu'on utilise beaucoup en psychiatrie, pas seulement le support qu'on donne, que les pairs reçoivent entre eux, mais je vous parle de thérapie de groupe avec un thérapeute qui mène le groupe. Voilà donc notre particularité du dossier patient. On va le retourner. Oui, là, on va retourner le dossier au cas où, parce que là, je me sens un petit peu mal, au cas où quelqu'un en a besoin. Je vais vous parler de deux expériences vécues. Là, je vais essayer de faire le pont entre aujourd'hui et demain. Il y a quelques années, j'étais faire une petite visite en Thaïlande. Pendant que j'étais à Bangkok, pour être plus précise, pendant que j'étais là-bas à Bangkok, il y a eu une collègue pendant le voyage qui a une rougeur au niveau de l'œil. On est au bout du monde, elle a une rougeur à l'œil, elle est inquiète, donc on veut aller se faire, ben, elle veut aller se faire traiter, puis moi je vais y aller avec elle pour l'accompagner. Donc on se retrouve à cet hôpital-là. Je ne sais pas comment le prononcer, mais en tout cas, pardonnez-moi si je le prononce tout croche, le Burumgrad International Hospital. Première étape, quand on s'est fait accueillir, bon, premièrement, on n'était pas obligé de parler thaïlandais, on a parlé en anglais. Elle a expliqué, ma collègue de travail, qu'elle avait mal à l'œil et qu'elle avait une rougeur. Donc, automatiquement, quand c'est rentré dans le système, il y a eu un protocole qui est apparu à la réceptionniste. Et le protocole disait qu'associé à ces symptômes-là, avant même de voir le médecin, il y avait un test qu'il fallait qu'elle passe. Un scan pour l'œil. Alors, elle, immédiatement, avec son protocole, elle a encore pitonné. Moi, je vais vous dire, je suis pas une fan de l'ordinateur. Moi, je veux que ça fonctionne bien, mais je sais pas comment ça fonctionne. Mais là, je peux vous dire que la réceptionniste, elle a pitonné, elle a tout de suite vu où il y avait des endroits de libre à l'hôpital pour qu'elle puisse avoir son scan à l'œil. Parce que tous les rendez-vous de toutes les salles sont toutes intégrées dans le système informatique de l'hôpital. Alors, tout de suite, elle a pu se faire diriger où aller passer son test, son scan à l'œil. On se rend là-bas. Ah, un petit détail. Avec le scan, il y avait aussi le prix. Parce que c'est pas gratuit là-bas. Bon. Donc, le prix, le scan, où aller, elle y va. Aussitôt qu'elle passe son scan, elle se fait dire où le spécialiste est disponible pour avoir un rendez-vous immédiatement. Parce qu'encore là, c'est pas seulement les salles de laboratoire qui sont les salles de test ou de laboratoire qui sont obligées d'être intégrées dans le système de labo. Tous les médecins, tous les intervenants, tous les spécialistes doivent donner leur disponibilité et leur horaire de travail. Donc, on savait où le spécialiste était, s'il était disponible, et on s'est rendu au bureau du médecin. Lui avait déjà reçu d'une façon virtuelle les résultats de test dans son ordinateur. Évidemment, il a prescrit des gouttes, mais le médecin, avant de donner la prescription, il a dit le prix. Mais après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié s'il y avait des médicaments de disponibles à l'hôpital, des gouttes, dans l'inventaire de la pharmacie pour pouvoir immédiatement donner la prescription à ma collègue de travail. Donc, tout est correct. Faut aller, après ça, payer la prescription, payer la consultation, payer le test. Ensuite, on a été avoir les gouttes, parce qu'ils ne nous ont pas donné les gouttes pour les yeux avant que tout soit payé. Et immédiatement, quand les gouttes ont été remises, l'inventaire de la pharmacie a retiré ce nombre de gouttes-là qu'il y avait dans l'inventaire. Donc, tous les systèmes sont tous associés puis intégrés. Petit détail important. On est au bout du monde. La fille, elle veut avoir sa consultation médicale pour la donner à son médecin. Elle demande là-bas, « Oh, excusez-moi, est-ce que je peux avoir une copie de ma consultation? » Évidemment, elle avait un BlackBerry et elle a reçu sa consultation, son BlackBerry, presque immédiatement. Donc, ce que je vous raconte là, du début, du moment où est-ce qu'on s'est assis à la réception pour dire « Ma collègue a une rougeur à l'œil » et du moment qu'on est sorti avec le message sur le BlackBerry, avec la consultation, il ne s'est même pas passé une heure. Là, je vais vous raconter notre histoire. Et c'est le fun, c'est une histoire vécue, là. Je ne vous raconte pas là, un conte de fées. Là, je vais vous parler de l'argent virtuel. Moi, je sais que l'hôpital Douglas me dit que à tous les deux semaines, il dépose de l'argent dans mon compte de banque. Je m'en vais faire des commissions et j'ai rien qu'à leur montrer un petit bout de plastique que la société me dit qu'il faut que j'appelle une carte de guichet automatique. Je monte cette petite carte-là et je peux avoir, on va dire une robe, j'en porte pas beaucoup, mais des souliers, des pantalons, un chandail, n'importe quoi. J'arrive chez moi le soir, je m'installe devant mon ordinateur et je rentre dans le site Internet de la banque qui est sécurisé. Je rentre mon mot de passe et tadam! Je sais combien j'ai d'argent dans mon compte de banque d'une façon réelle. Donc, à la minute que je regarde mon compte de banque, je sais combien j'ai d'argent. Là, vous allez me dire pourquoi je vous raconte tout ça. Parce que je veux vous expliquer que la technologie existe. On n'est pas en train de rêver, là, la technologie existe. Alors, laissez-moi vous expliquer comment je vois le dossier patient électronique en 2015. Là, je voudrais toujours que vous n'oubliez pas, là, tous les dossiers qui étaient là ici tantôt. Le dossier électronique en psychiatrie en 2015 pourra être un outil multi-angulaire de communication pour les intervenants. Essayez de vous imaginer ça. Tantôt, on a parlé de recherche, hein? Essayez de vous imaginer ça, que là, premièrement, pas seulement qu'une personne va pouvoir consulter le dossier. La personne ne sera pas obligée de venir aux archives pour consulter le dossier. Elle pourra consulter le dossier de son bureau, de la salle d'examen, de la salle de thérapie. Elle va pouvoir faire une recherche multiangulaire par symptomatologie, par signe, par mot, par épisode de soins, et non pas par ordre chronologique. Essayez de vous imaginer là, quelqu'un qui cherche une information spécifique dans un dossier de 12 volumes. On appelle ça de la recherche. Mais je ne suis pas sûre que c'est de la recherche scientifique. Laissez-moi revenir dans quelques minutes sur l'information concernant les patients, parce que je veux faire des liens avec les présentations qui ont eu lieu ce matin. Un témoin infalsifiable en cas de litige. Évidemment, en tant que responsable du service des archives ici à l'hôpital de Gluges, j'ai un petit côté, je suis un petit peu méfiante, craintive, que certaines informations soient falsifiées dans les dossiers papier. Mais essayez de vous imaginer que c'est pas mal plus compliqué d'essayer de falsifier un document qui a été fixé par le temps via un scanner. Une source de données probantes. Alors, essayez de vous imaginer une série de dossiers patients psychiatriques, tout électronique, et si on essaie de faire des regroupements entre des pathologies, des thérapies, ça va être beaucoup plus facile après ça de déterminer ou d'identifier des pistes de données probantes. Un outil d'aide au diagnostic. Je vais revenir à mon voyage à Bangkok. On a eu l'honneur, le privilège, la chance de rencontrer un monsieur qui est en train de faire une recherche sur un arbre décisionnel basé sur le DSM-4 pour aider les psychiatres à faire le diagnostic. C'était fantastique. Il décrit les symptômes, il peint sur un bouton magique, non, un bouton électronique, informatique, et ça donnait la probabilité de c'était quoi le diagnostic. C'est toujours au psychiatre de déterminer si les probabilités y croient ou s'il n'a pas oublié quelque chose, mais au moins, on pourrait avoir un arbre décisionnel dans le dossier patient électronique. Évidemment, un guide de traitement basé sur les meilleures pratiques, parce qu'encore là, si on est capable de faire la corrélation entre tel traitement, telle maladie, ça fonctionne. Oui, non. Alors, ça peut être plus facile après ça de vérifier si c'est vraiment une meilleure pratique. Donc, ce que je viens de vous dire, dossier patient électronique 2015, est-ce un rêve ou la réalité? Moi, je pense que c'est la réalité. Puis, je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai commencé à préparer la présentation pour ici, j'ai parlé à beaucoup de personnes. Bon, qu'est-ce qu'on va dire, le dossier patient électronique dans une conférence internationale? Alors, il y a quelqu'un de TELUS. Là, je vous l'ai dit, je n'ai pas d'intérêt avec TELUS. Là, je ne suis pas payé pour vous montrer ça, là, mais je veux vous montrer ça pour vous faire une preuve concrète que ça existe déjà. TELUS a commencé un projet pilote d'un dossier patient électronique. Puis regardez comment c'est fantastique. Parce que le patient de chez eux, là je sais que c'est petit, mais laissez-moi vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le patient de chez eux peut accéder à son dossier médical. Dossier médical, où est-ce qu'on y retrouve ses rendez-vous cliniques, ses résultats de laboratoire, ses notes et ses rapports, les notes manuscrites des intervenants puis les rapports d'évaluation. Un journal qui rédige lui-même de ses effets secondaires. Donc, aussitôt que le patient rédige ses effets secondaires dans son dossier patient que chez eux, ça s'inscrit automatiquement aussi dans le dossier réel disponible dans l'organisation. Et il peut accéder aussi à des liens Internet pour lui donner de l'information sur sa maladie. Lien Internet que l'organisation a décidé de mettre dans le dossier du patient. Il peut aussi décréter dans son dossier qui va avoir accès à son dossier. Son médecin de famille qui se trouve à être dans une clinique externe ou dans une clinique familiale, des amis, des parents. C'est sûr que là, c'est un exemple, ils sont en train de faire un essai pilote à un hôpital de Toronto. C'est sûr qu'on parle d'un dossier médical. En psychiatrie, il y a une saveur un petit peu différente en psychiatrie parce qu'il y a des éléments qu'on ne veut pas vraiment montrer. Il me reste une diapositive à vous montrer. C'est celle-là qui permet de voir que le patient peut avoir en ligne des informations sur l'organisation, sur l'hôpital, sur sa maladie, ses traitements, sur les effets de ses médicaments, sur les effets désirés et indésirables des médicaments, les interrelations médicamenteuses, et ce, en temps réel. Il peut tout de suite voir c'est quoi ma prescription présentement, c'est quoi les effets secondaires que je peux avoir présentement. Dans notre groupe, où est-ce qu'on est en train de monter le dossier patient électronique à l'hôpital Douglas, les plus optimistes comme moi, je suis persuadée qu'on est capable de faire ça dans 5 ans. Les plus optimistes, les plus pessimistes du groupe me disent « C'est impossible que je rêve, que je suis une visionnaire qui n'a pas le contact avec la réalité. » Il faut dire que j'aime beaucoup la science-fiction. Alors, les plus pessimistes du groupe me disent « Non, c'est impossible dans 5 ans, mais réaliste dans 8. » Merci. Je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous parler peut-être plus de la partie technique. Et ensuite, ça va nous faire plaisir d'accueillir vos commentaires, vos questions, vos rêves.